rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaud Dautuil au micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec un des évêques de notre région. Et pendant tout ce mois de décembre, nous sommes avec Mgr Echen. Bonjour Mgr Echen.
Bonjour à vous.
Vous êtes évêque de l'Ariège et donc nous parlons avec vous pendant tout ce mois de décembre d'écologie. La semaine dernière, nous avons fait une longue introduction sur la réception de Laudato Si, et puis vous nous avez donné un exemple très concret et incarné avec les sœurs de l'Abbaye de Rionnette. Je vais vous reprendre sur le sujet de l'écologie intégrale qu'on a commencé à effleurer. C'est un peu un... comment dirais-je, ça devient un mot valise aujourd'hui, l'écologie intégrale. Pourtant, quand je cite le pape dans son encyclique, on ne peut pas concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de vie. Autrement dit, il lie de manière intrinsèque les questions sociales et humaines et les questions d'environnement. Si je dévie un peu vers la politique, est-il bien normal d'avoir un ministère de l'écologie ? Ne devrait-on pas avoir dans chaque ministère un secrétariat d'écologie, d'État à l'écologie ?
Effectivement, certains défendent cette idée. Si on a un ministère de l'écologie, ça veut dire que l'écologie serait un dossier à part, indépendant, et qu'elle ne concernerait pas le ministère de l'économie ou le ministère du travail, alors que justement le pape essaie de nous dire autre chose. Il nous dit que tout est lié et qu'à un certain moment, une approche d'écologie intégrale fait que dans chacun des domaines qui sont des domaines de notre vie individuelle ou collective, on doit prêter attention à cette dimension-là. Un peu comme dans une paroisse, si on veut trouver une analogie, on pourrait se dire la question de la solidarité, bon voilà, c'est un dossier qu'on va déléguer à l'équipe du Secours catholique, mais les autres ont d'autres chats à fouetter. Finalement, ils vont s'occuper de la catéchèse, ils vont s'occuper des finances de la paroisse, de la gestion immobilière ou de l'annonce de l'évangile. Mais en réalité, cette dimension-là, elle doit de la charité, de l'exercice de l'amour du prochain et particulièrement des plus fragiles, ce doit être une attention qui est portée dès les premiers temps de la catéchèse, qui doit être portée y compris dans la liturgie. Quelle place fait-on aux plus pauvres, à ceux qui ne possèdent pas tous leurs moyens intellectuels ou leurs moyens économiques? Dans la gestion économique, quelle est la part du budget de la paroisse qu'on accorde, pas seulement à l'équilibre économique de la caisse paroissiale pour payer son chauffage, mais est-ce qu'on verse notre dîme pour être attentif aux plus petits? Donc vraiment, cette question écologique, oui, on devrait un jour ou l'autre parvenir à supprimer le ministère de l'écologie, parce que dans chacun des ministères, cette attention est très prégnante et très forte.
Et est-ce que vous ne pouvez pas proposer à M. Macron de lire le date aussi, peut-être en le pointant ces pages-là, pour qu'il en ait prenne conscience?
Alors peut-être, je ne sais pas s'il m'écouterait si je lui proposais ça, et peut-être l'a-t-il lu, je n'en sais rien, mais en tout cas, on n'a pas le sentiment que dans les choix que l'on pose politiques aujourd'hui, on soit dans un vrai changement de modèle de société, alors qu'on sent bien qu'il y a une urgence. On n'est plus sur des logiques de changement des petits pas ou du long terme. Aujourd'hui, il faut poser des choix politiques forts. Alors, est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes politiques ont les moyens face aux grandes entreprises internationales qui ont parfois des budgets plus importants que ceux de nos États? Est-ce que les hommes politiques ont les moyens de changer des choses? On l'espère, parce que sinon, ça ne vaut plus la peine de s'engager en politique. Mais sans doute qu'on peut trouver que les changements qui s'opèrent, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de l'utilisation des énergies, dans le domaine de cette idée que peut-être, plutôt que de rêver d'une croissance indéfinie un jour ou l'autre, il faut qu'on se dise les moyens qui se trouvent sur notre planète, les ressources sont limitées. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une croissance toujours plus grande ou toujours recherchée face à des ressources qui, elles, sont finies? Donc l'infini par rapport au fini, donc il y a des incohérences là dont il faut sortir. Alors qu'on n'en sorte pas du jour au lendemain, bien sûr, mais qu'on nous dise au moins, nous changeons de modèle de société et de modèle politique, alors qu'aujourd'hui, on nous dit, non, on ne change pas, on continue comme avant, mais on aménage un peu à la marge.
Ce qui est certain, c'est que le pape lui-même est très critique sur les grands rassemblements mondiaux sur l'écologie. Il parle de manque de décision politique, autrement dit, pas de courage pour aujourd'hui, pas une vision à long terme, mais qui ne se traduit pas dans des décisions courageuses aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez vécu la COP21, par exemple? Vous vous en souvenez?
Oui, je m'en souviens assez bien. Alors, ça fait partie de ces grands... on pourrait parler de grandes messes.
Dont on attend beaucoup, malgré tout.
Dont on attend beaucoup, qui peuvent poser des gestes symboliques assez forts. Mais après cet événement où on se dit, tiens, c'est extraordinaire, il y a une prise de conscience internationale, et il y a des déclarations de tel ou tel chef d'État assez fortes qui sont prononcées, et puis tout le monde semble adhérer. Et puis ensuite, chacun revient chez soi, et puis on continue comme avant, ou avec quelques aménagements à la marge, avec des gens qui se mettent à distance, y compris des grandes nations, comme les États-Unis, qui se mettent à distance d'engagements communs qui ont été pris. Donc ça reste préoccupant, donc il y a un espoir qui surgit. Et puis tout d'un coup, chacun revient à son quotidien, à ses ambitions politiques, à ses politiques, y compris économiques, à courte vue, et en ayant le sentiment que ce souffle un peu nouveau qui avait surgi là, il est abandonné ou il a disparu. Alors je ne dis pas que ça a été inutile, mais ça contribue sans doute à un changement de culture, à une prise de conscience progressive, mais pour changer de culture, nous on s'en rend bien compte, y compris dans la vie pastorale, si on se dit qu'il faut qu'on change de culture ecclésiale, changer de culture, ça demande des années, voire des décennies. Mais
donc en fait, le pape François, là, il ne crie pas dans le désert, mais il plante un clou, et au fur et à mesure des clous qu'on plante, les consciences changent.
Voilà, les consciences évoluent peu à peu, mais le problème, c'est qu'il y a une urgence. Oui. Et à un certain moment, face à l'urgence, est-ce qu'on peut attendre aussi longtemps que nécessite cette attente liée à un changement des consciences ou au changement d'une culture? Sans doute pas. Mais on ne peut pas non plus opérer des conversions ou des révolutions sans l'assentiment des citoyens. Donc on est tous pris dans ce dilemme.
Parce que là, justement, on vit une époque un petit peu compliquée avec le phénomène des gilets jaunes. Tout le monde est appelé à une transformation radicale, mais quand on a répondu à cette promesse d'être propriétaire de sa maison, propriétaire de sa voiture et de faire tous les jours un trajet de 30 km en voiture diesel, le modèle idéal, le modèle rêvé, on s'accroche à ça, que c'est notre raison de vivre aujourd'hui, comment est-ce que radicalement je me transforme?
Alors évidemment, derrière ce mouvement des gilets jaunes, il y a mille choses. Comme toujours pour ces mouvements citoyens qui ne viennent pas d'un parti ou d'un syndicat ou d'une vision un peu claire du discours qui est porté. Mais il y a peut-être un sentiment d'injustice. Je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'on consomme trop d'énergie fossile, qu'on circule trop en voiture. Mais à un certain moment, quand l'organisation de la société est telle que pour aller travailler, vous avez besoin de votre voiture, que vous n'avez pas un salaire mirobolant, vous ne pouvez pas nécessairement facilement en changer pour avoir une voiture qui consomme moins.
Oui,
vous avez besoin d'accompagner vos enfants à l'école, de les accompagner pour telle ou telle activité. Vous sentez un peu les dindons de la farce, et je pense que c'est un peu ces mouvements d'humeur qui sont expliqués par là. Je crois qu'il y a une vraie conviction de la part de la majorité de nos citoyens qui repose sur cette idée qu'il faut changer de modèle de société, mais on a le sentiment qu'on demande des efforts à ceux qui peut-être sont les moins dotés, alors que parallèlement, bon, sans signer évidemment toutes les déclarations, tous les discours de tel ou tel homme politique, mais si on prend quelqu'un qui gagne, en étant excessif, mais il y a des gens qui gagnent ça dans notre société, qui gagnent 10 000 euros par mois, à un certain moment, si le prix du litre d'essence augmente même de 20 ou 30 centimes, ça n'a pas beaucoup d'importance,
oui, bien sûr.
Au budget personnel ou familial. Oui. Par contre, pour des gens qui gagnent guère plus que le SMIC, et qui voit l'augmentation de cette charge-là en termes de coût du transport, plus telle ou telle augmentation de la TVA sur d'autres produits, l'augmentation du coût des consommables pour les chauffages domestiques, ça finit par faire beaucoup et il peut y avoir un sentiment d'injustice. Quand le pape parle d'écologie intégrale, oui, il parle aussi ce fossé qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. La richesse globale de notre humanité augmente dans un pays comme le nôtre. La richesse globale continue à augmenter, mais elle est très inégalement répartie.
C'est vrai qu'il appelle clairement aussi à nouveau, une fois de plus, parce que là, pour le coup, les papes le rappellent régulièrement, à une meilleure répartition des richesses et notamment à l'option préférentielle pour les pauvres. C'est tout à fait au cœur de l'encyclique. Mais c'est vrai que c'est, dans ce cadre-là, assez difficile à entendre.
Oui, tout à fait. Donc je pense que c'est pas qu'une... Évidemment, dans notre culture française en particulier, avoir sa voiture, avoir sa liberté de mouvement et pouvoir circuler sans que ça coûte trop, y compris circuler tout seul en voiture plutôt que de prendre un autostoppeur. On est dans les territoires, il n'y en a plus tant que ça en France, mais dans lesquels le phénomène de l'autostop, donc du covoiturage, mmh, est un phénomène assez répandu, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans ce choix ou dans cette impossibilité d'avoir un véhicule, mais parfois c'est un choix. Alors il faut bien qu'il y en ait quand même qu'il y ait un véhicule si on veut circuler, à défaut de transport en commun. Donc on voit des gens lever le pouce, et parfois je me dis, moi la voiture pour moi c'est un lieu aussi où je suis un peu dans une bulle solitaire, où j'écoute un podcast, ou
la radio,
les moines de Tamier chantant l'office. Je me dis, oh, je ne vais pas prendre un autostoppeur. Mais après, je me fais le reproche. Je me dis, si je veux être cohérent avec les appels du pape, il faudrait que je le fasse.
Écoutons cet exemple, Mgr Echen. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Merci à vous.
Rencontre avec nos évêques.